était reparti à San Cristobal pour la musique après le discours de Tachos, commandante, qui avait ouvert le forum indigène à San Cristobal.
Alors ce forum s'est partagé ensuite en 6 groupes de travail. Le premier sur la question de l'autonomie, le deuxième sur la question des droits indigènes, le troisième sur la question de la représentation politique, le quatrième sur la question des femmes, le cinquième sur la question de l'éducation et le sixième sur éducation et culture et le sixième sur la question des moyens de communication. Donc les femmes sont très présentes dans cette problématique puisqu'il va y avoir 4 forums et dans les 4 forums il y aura un atelier de femmes et le quatrième forum sera un forum que de femmes. Il y avait donc des femmes de tout le Mexique, il y avait environ 100 femmes, c'était un des forums les plus importants. Et le but n'était pas de discuter de la problématique de femmes, mais d'inclure la question des femmes dans la problématique plus générale de qu'est-ce que c'est que l'autonomie, qu'est-ce que c'est que les droits indigènes, puisque c'est le thème général de ce forum. Et c'était un papier, le résultat devait être un papier unique sur la question de l'autonomie. Donc les femmes ont beaucoup discuté, il y a eu bien sûr la problématique de la violence, il y a eu aussi la problématique de la parité, de la représentation politique, de dire qu'elles doivent être là à tous les endroits où se décident les choses. Il y a eu aussi la question de la terre, puisque les femmes n'ont absolument aucun droit à la terre et dans les systèmes d'héritage qui sont pratiqués dans les communautés indigènes, les femmes n'ont pas le droit d'hériter, donc elles sont totalement exclues de la possession de la terre. Elles sont aussi très souvent exclues des charges administratives et que les indigènes ont, puisque dans certains villages, il y a une gestion indigène. Là, les femmes, là aussi, ne participent pas à la gestion de ces villages. Donc, elles ont demandé de pouvoir être représentées à tous ces niveaux, d'avoir accès à la terre, d'avoir accès aussi à des projets, à de l'argent pour pouvoir développer des projets de femmes. Donc, c'était vraiment toutes les revendications qui sont aussi les nôtres, qui sont celles des femmes dans le monde entier, ont été redites dans ce forum indigène.
Tu remarquais aussi à propos de ce forum des femmes où tu étais dans ce groupe-là, tu as suivi ce groupe-là en particulier, Viviane, que les femmes discutaient entre elles, mais à un moment donné, elles auraient bien aimé que des hommes participent à leur discussion. Pourquoi cela ?
Alors, effectivement, elles avaient envie que des hommes viennent pour que, justement, la question des femmes ne soit pas une question à part, discutée qu'entre femmes, comme un peu autour d'une tasse de thé, mais qu'elle devienne un élément fondamental de la question politique générale. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui sont venus. Il y en a eu quelques-uns qui avaient été envoyés visiblement parce qu'ils étaient les uniques délégués d'autres peuples indigènes qui sont venus là. Mais comme ils le disent eux-mêmes, de façon très timide, ils venaient surtout pour écouter. Et ensuite, il y a eu, lors des séances plénières, effectivement une présence des femmes qui se sont attachées à chaque niveau de la discussion, quand on a discuté par exemple de la question de l'autonomie, de dire oui, mais pour les femmes, la question de l'autonomie ne se pose pas seulement en termes politiques, elle se pose dans la maison, dans la communauté, dans la région. Parce que un des axes de conflit avec le gouvernement, lors des négociations avec le gouvernement, c'est que le gouvernement veut absolument reléguer la question zapatiste et la question indigène dans le Chiapas en disant c'est un problème local qu'on peut arranger, on va vous faire des routes, on va amener une école, on va vous distribuer des bottes, etc. Toujours avec ce système de corruption, mais ne veut absolument pas prendre en compte la dimension nationale. Et finalement, les indigènes demandent, eux, une révision générale de la Constitution, donc vraiment attaque les fondements même de l'État.
En dehors de ce forum où tu as l'occasion de suivre donc la table, la discussion des femmes, Suzanne et toi, vous étiez allées discuter avec quelqu'un avec qui il semblerait pas plus particulièrement difficile de discuter de questions de femmes, et pourtant la discussion fut assez fructueuse. C'était le bras droit de Samuel Ruiz, donc l'évêque des Indiens. En l'occurrence, vous avez parlé avec un curé qui est son bras droit, et vous avez abordé avec lui les questions concernant les femmes comme la contraception. Quelle est la position de l'Église, cette Église-là ? Parce que je crois que c'est pas tout à fait la même que celle du pape, n'est-ce pas ?
Alors, c'est aussi, on va aller aussi très vite, c'est une église extraordinaire, l'église à Saint-Christobal, puisque l'évêque qui a les trois quarts de la ville contre lui, le pape et une partie de l'église mexicaine, l'évêque défend depuis plus de 30 ans les Indiens. C'est l'évêque des Indiens. Et il participe à toutes ces négociations, puisqu'il fait toujours l'intermédiaire entre les apatistes et le gouvernement. Alors effectivement, il est très proche des préoccupations indiennes. Et quand on est allé voir le padre González, qui est son adjoint, et on a posé la question d'une des revendications des femmes apatistes et des femmes indigènes, qui est de pouvoir réduire le nombre de naissances, puisque la plupart ont 10-15 enfants. Alors, là aussi, il était assez gêné sur cette question. Il nous a dit, oui, effectivement, on n'est pas pour l'avortement, on n'est pas tout à fait non plus pour la contraception avec les pilules, les stérilisations, etc. On pense que c'est plutôt par le développement et l'enrichissement des gens et la formation que les gens commenceront à régler eux-mêmes, à régler le nombre de naissances. Vous savez, a-t-il dit, nous ici, on est une église adulte. C'est pas comme le pape. Lui, c'est toujours un adolescent. Il doit encore grandir, mais ça viendra.
Donc, des rencontres étonnantes quand il s'agit de parler des femmes. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec des femmes, vous, directement, en dehors de ces discussions plus formelles, politiques ? Est-ce qu'elles sont là, par exemple, je crois que vous aviez une femme qui vous a guidé, ou à propos du fameux projet que le groupe Viva Zapata à Genève pensait soutenir, cela concerne aussi les femmes. Est-ce que vous avez l'occasion d'en discuter concrètement sur place ?
Les commandantes étaient là et ils étaient une présence tout à fait, comment dirais-je, ils avaient donné l'espace pour que ces débats aient lieu, mais eux-mêmes ne participaient pas aux discussions. Donc ils ouvraient les séances, donnaient la parole, mais ensuite c'est tout, ils ne parlaient pas. Alors nous, dans la discussion sur les femmes, on s'est partagé en petits groupes où les commandantes qui étaient là se sont aussi réparties et ont participé à la discussion, mais elles prenaient pas du tout, elles ne donnaient pas du tout leur avis. Elles n'avaient pas du tout une action dirigeante. Sinon, il y avait toutes ces assessores, dont une partie c'était des féministes mexicaines, souvent de la capitale, et qui sont des femmes passionnantes, extraordinaires, très 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 intéressantes, qu'on a pu rencontrer comme ça dans les couloirs. Sinon, c'est toujours des rencontres qu'on fait tout à coup avec une femme, une vieille dame qui vient me raconter comment sa fille vient de se faire assassiner par ses voisins parce qu'elle avait occupé des terres et que ses voisins étaient justement des gens du prix et sont venus un soir l'assassiner. Cette autre qui vous racontait que tous ceux qui ne votaient pas pour le prix ne pouvaient pas aller envoyer leurs enfants à l'école parce que les bottes étaient distribuées uniquement à ceux qui votaient pour les prix. Le prix, et si les enfants n'ont pas de bottes, ils ne vont pas à l'école. Donc on a ce genre de contact là. La rencontre quand même la plus symbolique qu'on a eue à la fin de ce congrès, c'est que tout à coup on a annoncé un soir que la vedette, c'est-à-dire le sous-commandante Marcos, allait venir. Ce qui était vraiment un événement, puisque le soupe n'était plus sorti de la forêt depuis 2 ans et n'avait jamais remis les pieds à Saint-Cristobal. Que pour venir, il devait traverser 200 km de terrain complètement contrôlé par l'armée, donc il devait être protégé. Et que c'est donc l'évêque lui-même, avec la Croix-Rouge et les parlementaires, qui sont allés le chercher. Dans un voyage que la presse a amplement commenté. C'était donc vraiment un événement. Et un soir, à 9h du soir, tout à coup, au milieu d'une assemblée plénière, où depuis le matin, on discutait sur les différents points des ateliers, tout à coup, dans un frémissement de la salle, on a vu arriver Marcos, toujours avec son passe-montagne, sa pipe, bien sûr, qui s'est installée de façon très cérémonieuse, qui a salué les gens, qui a salué tous les Indiens qui étaient là, et qui ensuite a dit, eh bien, je vais vous raconter une histoire. Et il a commencé à raconter l'histoire des 7 arcs-en-ciel.
Muy en el principio de los mundos que luego caminaron nuestros más grandes abuelos, los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros, se bajaron a platicar con los hombres y mujeres de maíz. Era una tarde como esta, de frío, lluvia y sol que parpadea. Se sentaron los más primeros dioses a platicar con los hombres y mujeres de maíz para hacer los acuerdos de los caminos que debían caminarse los hombres y mujeres verdaderos. Porque estos dioses, que eran los más primeros, los que nacieron en el mundo, no eran mandones como los dioses que fueron llegando luego. No eran mandones los primeros dioses, sino que buscaban el buen acuerdo entre ellos y con los hombres y mujeres de maíz. Buscaban siempre llegar al buen camino juntos, con buen acuerdo y buena palabra. Y entonces sacaron acuerdo de los trabajos que debían hacer los hombres y mujeres de maíz para hacer un mundo bueno. Y entonces sacaron el acuerdo de que 7 eran los trabajos más primeros, los más importantes para hacerlos nuevos. Y hablaban los 7 primeros dioses, los que nacieron en el mundo, diciendo que 7 eran los trabajos que debían cumplirse para que el mundo fuera bueno y nos hiciera nuevos. Y también decían los primeros dioses que 7 eran los colores y 7 su número en que se contaban. Y entonces los hombres y mujeres de maíz estuvieron de acuerdo en cumplir con los 7 trabajos para que el mundo fuera bueno, y miraron al lugar donde el sol y la luna se turnan su duermevela, y preguntaron a los dioses primeros que cuánto debían caminar para cumplir esos siete trabajos que sirven para hacer el mundo nuevo. Y entonces los dioses primeros dijeron que 7 veces 7 se caminaran en 7, porque así había salido el número que recuerda que no todos pueden ser pares y que siempre puede haber lugar para el otro.
Suzanne va nous traduire l'histoire dont on vous a donné le tout début du sous-commandant Marcos.
Donc, ce conte débute, introduit par Marcos, comme étant une histoire que lui a raconté son ami le vieil Antonio il y a exactement une dizaine d'années. Et le conte raconte l'histoire des premiers dieux, les tout premiers dieux qui n'étaient pas des dieux autoritaires comme ceux que nous avons maintenant, qui n'étaient pas mandones, qui étaient des dieux bons et qui cherchaient le dialogue. Comment ces dieux ont cherché à parler avec les tout premiers hommes qu'il appelle les hommes de maïs, les hombres de maïs, pour se mettre d'accord sur les voies qu'il fallait suivre pour faire un monde bon. Donc, ils passent un certain temps, ils descendent sur la terre pour faire cette discussion. Ils se mettent d'accord avec les hommes de maïs sur quels sont les travaux à accomplir. Et les 7 premiers dieux ont parlé de 7 grands travaux à accomplir. Mais les hommes de maïs ont demandé combien de temps faut-il marcher pour accomplir ces 7 grands travaux. Alors là, les dieux donnent une réponse un peu sibylline. Ils disent il faut faire 7 fois le 7. Alors, ils comprennent qui pourra. Pourquoi le chiffre 7 ? Le chiffre 7 rappelle que tout ne va pas par pair, tout ne va pas deux par deux, et qu'il y a toujours de la place pour un autre. Sans que ça, la signification du chiffre 7. Alors, à la question des hommes de maïs, aux dieux, pourquoi ce 7 fois 7, le 7 ? Les dieux ont répondu qu'ils ne savaient pas, qu'il fallait continuer de beaucoup étudier, et que les hommes et les femmes de maïs devaient continuer de se réunir pour essayer de comprendre ensemble ce qu'il fallait faire, et de comprendre ensemble quelque chose qui était nouveau. C'est donc ce qu'ils ont fait, pensándose, sabiéndose, hablándose, aprendiéndose, c'est-à-dire se pensant, se sachant, se parlant, s'apprenant. À ce moment-là, la pluie s'est mise à tomber, et un pont de lumière et de couleur est apparu, un pont qui n'allait nulle part, qui était là, simplement. Ce pont, c'était donc l'arc-en-ciel, les a rendus très joyeux et ils se sont mis à danser. Après la danse, ils se sont de nouveau réunis et ont réfléchi de nouveau sur l'énigme du 7 x 7, le 7. Ils en ont déduit qu'il s'agissait de 7 arc-en-ciel et chaque arc-en-ciel a donc 7 couleurs. Et que c'était les 7 chemins qu'il fallait parcourir pour réaliser les 7 travaux. Pour cela, depuis cet après-midi de joie et de savoir, les hommes de maïs passent leur vie à faire des ponts dans la vie et jusque dans la mort. Et après, donc, on vous raconte la suite du conte.
Caerse ni levantarse, nomás estando ahí. Y los hombres y mujeres de maíz se quedaron mirando y también los primeros dioses. Y ahí nomás que se empieza a pintar un puente de luz y nubes y colores. Y de la montaña venía el puente y al valle iba el puente. Y luego clarito se veía que el puente de colores, nubes y luz no iba a ninguna parte, ni se venía de ningún lado, sino que nomás estaba ahí, encima de la lluvia y el mundo. Y tenía el puente de luz, colores y nubes, siete colores como franjas. Y entonces los dioses primeros y los hombres y mujeres de maíz se miraron otra vez y se volvieron a mirar el puente que no iba ni venía, sino nomás estaba. Y entonces entendieron que el puente de colores, nubes y luz, no va ni viene, sino que sirve para ir o para venir. Y entonces se pusieron muy alegres los todos que se estaban pensándose y aprendiéndose, y supieron que eso era lo bueno, ser puente para que vayan y vengan los mundos buenos, los nuevos que nos hacemos. Y ya que se acabaron de bailarse, se reunieron otra vez, y encontraron que siete veces siete, era que siete arcoíris de siete colores tenían que hacerse caminando para que pudieran cumplirse los siete trabajos principales. Y entonces ya se supieron también que terminado los siete, se seguían otros siete, porque los puentes de nubes, colores y luz no van ni vienen, no tienen principio ni final, no empiezan ni acaban, sino que se la pasan siempre cruzando de un lado a otro. Y así quedó el acuerdo que sacaron los dioses primeros y los hombres y mujeres verdaderos. Por eso, desde esa tarde de alegría y saber, los hombres y mujeres de maíz, los verdaderos, se pasan la vida haciendo puentes. Y en la muerte también se hacen puentes. Puentes siempre de colores, de nubes y de luz. Puentes siempre para ir de uno a otro lado, para hacer los trabajos que nacen al mundo nuevo, al que bueno nos hace. Siete veces siete se camina el siete, los hombres y mujeres de maíz, los verdaderos. Haciendo puentes se viven, haciendo puentes se mueren.
Et le sous-commandant termine là cette première partie de l'histoire et il raconte que en fait, en venant à Saint-Christobal, et il semble que c'est confirmé, les journaux le racontaient également, il a vu six arcs-en-ciel et il se demandait toujours où est le septième. Et finalement, il dit, le septième, il est là, il est dans ce forum, c'est ici que j'ai trouvé le septième arc-en-ciel, c'est ici que nous sommes tous réunis pour faire des ponts, pour continuer à relier les gens, des ponts qui ne vont ni ne viennent de nulle part, mais qui font les chemins.
Pasé el camino esperando la aparición del séptimo y el frío coleto me trajo otros recuerdos de unas madrugadas de hace 2 años cuando con bombas y soldados se pretendía apagar el ya basta moreno que amaneció el mundo. Hace 2 años, en estos mismos suelos, la dignidad indígena despertó y nos despertó. No fue poco el dolor ni pequeña la muerte. Pero esa es otra historia y yo nomás quería decirles que aquí nomás estaba el séptimo arcoíris, en esta reunión o foro en el que estamos pensándonos, hablándonos, aprendiéndonos, sabiéndonos. Y yo quería decirles que este, el suyo y el nuestro, es el séptimo arcoíris, el séptimo puente que tenemos que hacernos para nacer los nuevos mundos. Así que ya nomás nos faltan 7 veces 7, caminar el 7, para decir y decirnos que hemos terminado los 7 trabajos que nacen al mundo bueno, al que nos hace nuevos. Gracias, hermanos. Bienvenido el arcoíris, bienvenido el puente, bienvenido el paso que lo va y lo viene. Bienvenida siempre la palabra que camina, la de ustedes, la nuestra, la de los todos que somos nosotros. Gracias.
rude.
Suzanne Viviane, cette écriture du sous-commandant de Marcos est quand même étonnante, et cette façon de communiquer avec les gens en leur racontant des histoires, c'est quand même une toute autre histoire de communiquer, on le disait tout à l'heure, que ce, que nous, ce à quoi nous étions accoutumés dans les mouvements révolutionnaires.
Oui, je pense que ce qui est étonnant chez Marcos, c'est qu'il sait mêler le discours politique avec des fois des choses très, très dures qu'ils ont à dire, ils prennent position contre l'État, etc., etc., avec tout le monde des contes, des récits des indigènes. Et puis Marcos, il mêle aussi toujours sa propre subjectivité. Donc très souvent, quand il envoie un communiqué, il est accompagné d'une petite lettre tout à fait personnelle, où il apparaît aussi comme un être humain faible, inquiet. Il n'apparaît pas toujours non plus comme quelqu'un de fort et de triomphant et de content. Il se montre, disons, comme il est dans sa partie la plus personnelle. Donc effectivement, ce mélange continuel, ça donne une toute autre force au message politique.
Pour qu'on se rende compte, Suzanne, tu nous donnes un tout petit extrait du dernier PS qu'il a écrit dans le dernier communiqué de presse qu'il a fait parvenir, le plus récent. Donc, puisque, précisons-le bien, le sous-Marcos, le sous-commandant de Marcos, le sous, comme on dit, c'est lui qui écrit tout, c'est le, comment dire, l'agent de communication de l'armée zapatiste.
C'est le porte-parole, oui.
Voilà. Donc ça, c'est la petite lettre qui accompagnait le communiqué du 22 décembre 1995, ce communiqué qui avait été écrit dans un moment de très grande tension, justement, quand l'armée était en train de réenvahir le Chiapas. Donc alors, il envoie un petit mot à la presse nationale et internationale, et il dit « Messieurs, voici quelques communiqués ». Bien, nous avons eu beaucoup, même si vous avez eu beaucoup de travail à poursuivre des ex-présidents et leurs annexes, il continue, il dit « Je me rends compte que maintenant, il y a des piñatas avec la tête de Salinas, donc le président. Les piñatas, c'est ces grandes poupées sur lesquelles on tape, on cogne lors des fêtes. Et ça se fait avant Noël au Mexique. Donc, il y avait beaucoup de gens qui ont fait des piñatas avec la tête de Salinas, qui étaient tout contents de lui taper dessus. » Alors il nous dit, est-ce que vous ne pourriez pas nous envoyer quelques-unes de ces piñatas? Et puis il continue par un post-scriptum et qui dit, l'amour est comme une tasse de thé qui chaque jour se tombe sur le sol, qui se casse en mille morceaux, et au petit matin, les petits morceaux se recollent avec un peu d'humidité et de tibiesse, de salive, voilà. Et il y a de nouveau une petite tasse. Celui qui est amoureux se passe la vie en ayant peur de l'arrivée du jour terrible que la petite tasse sera tellement cassée qu'il ne sera plus possible de la recoller. L'amour est un équilibre compliqué dans lequel on met d'un côté les choses bonnes et de l'autre côté les choses mauvaises. Ça, c'est Durito qui le dit. Durito, c'est un petit personnage qui accompagne toujours Marcos. C'est un petit scarabée qu'il a en général dans sa poche, dans une petite boîte, et qu'il fait parler quand il a des choses un petit peu désagréables à dire. On le voit apparaître dans certaines vidéos de Marcos. Et l'amour durera aussi longtemps que la balance des bonnes choses gagne sur la balance des mauvaises choses. Et il reste donc à penser, à fumer, la lune était toute nacrée, etc. Il continue sur ce thème.
Et après ces réflexions sur l'amour, suit un communiqué très
tout à fait
clair et net, voilà. Sur voilà. Les propositions du mouvement zapatiste.
Voilà, exactement.
Et le sous-commandant Marcos se permet aussi d'écrire pour nous, heureusement. Il s'adresse aussi des fois à nous autres citadins, Viviane, n'est-ce pas?
Alors effectivement, donc quand il a terminé ce conte, il s'est levé, il est parti, et donc pendant l'assemblée, le lendemain il est revenu, et c'est lui qui a fermé les travaux du forum en s'adressant à toutes les personnes, à tous les groupes qui étaient là, les indigènes, les assesseurs, l'évêque, et il s'est aussi adressé aux internationalistes et à la Croix-Rouge en leur racontant une petite histoire que Don Durito lui avait racontée. l'histoire d'un du cheval bai. C'est l'histoire d'un vieux paysan avec qui avait une femme. Ils étaient très très pauvres. Ils avaient juste une poule maigre et puis un cochon boiteux et un cheval bai. Et un jour ils ont eu faim, ils ont tué la poule et ils ont fait une soupe maigre de poule maigre et ils l'ont mangée. Et puis après ils avaient de nouveau faim et ils ont tué le cochon et ils ont fait un ragoût avec le cochon boiteux. Et puis après ils avaient de nouveau faim, c'était le moment de tuer le cheval, mais il était parti dans une autre histoire.
Et puis pour terminer cette émission, et je remercie bien sûr évidemment Viviane et Suzanne d'être venues nous faire part de leurs impressions de voyage au Chiapas, eh bien on a encore envie de vous raconter une histoire du Sub Marcos.
Oui, si en tout cas ce qu'on vous a raconté vous a fait envie, eh bien n'hésitez pas, allez voir ce qui se passe. D'ailleurs, Marcos, dans un appel aux citoyens, déjà de janvier 94, vous invite. Voilà ce qu'il dit. Des kilomètres nous séparent, des tonnes de misère, de déception et de mépris nous rapprochent. On vous raconte que nous allons bien, que nous avons nos petits lopins de terre, nos petits animaux, que nous ne payons pas d'impôts sur le revenu, que nous ne connaissons pas le smog, que nous vivons à l'abri du stress citadin et que nous choisissons bel et bien notre gouverneur. On nous raconte que vous allez bien, que vous avez l'électricité, le téléphone, la télévision, la machine à laver, que vous ne vous salissez pas de boue en marchant, que vous avez beaucoup d'hôpitaux et d'écoles, que vous avez beaucoup de façons de vous amuser, que vous n'avez pas besoin de vous embêter à élire un gouverneur puisque le régent est nommé par le président. On vous raconte que nous allons mal, que nous n'avons pas d'éducation, que nous vivons à la merci des intempéries, que nous ne savons pas parler espagnol, que nous n'avons aucune hygiène, que nous sommes arriérés, que la démocratie et le pays ne nous intéressent pas, que seul nous intéresse notre terre et notre famille. On nous raconte que vous allez mal, que vous gaspillez votre temps et votre vie à des sales manies, que vous êtes malfaisant, que vous n'allez pas à l'école parce que vous ne le voulez pas, que vous êtes immoraux, que la démocratie et le pays ne vous intéressent pas, que seul vous intéresse votre résidence secondaire et votre famille. On vous raconte que nous sommes nés pour perdre et vous vous en contentez. On nous raconte que vous êtes nés pour perdre et nous nous en contentons. Alors nous avons pensé que peut-être deux destins voués à la défaite ne font pas un destin voué à la défaite au carré, mais quelque chose qui ne se contente plus de la défaite, et que ces deux fatalismes peuvent produire un grand non-conformisme. Alors, nous voulions inviter votre mécontentement à rendre visite aux nôtres, parce que des dizaines de milliers de raisons vert olive empêchent pour le moment notre mécontentement de rendre visite aux vôtres.
Quemo zapatistas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezos, laborando por paz de la nación. No queremos ya más luchas entre hermanos. Sigamos adelante, compañeros, que se llenen de trigo los graneros y que surja la paz con libertad.